tout le monde. Et je suis très impressionnée comme le Seigneur a conduit le culte. Vraiment, vraiment impressionnée. En fait, le Saint-Esprit a déjà fait le travail. Et je pense qu'il n'y aura plus qu'à confirmer par la parole. Mais le Saint-Esprit, il a déjà tout dit, tout fait. C'est impressionnant. Et rappelez-vous, Luc, en début de culte, il a parlé de l'amour de Dieu qui faisait de nous des rois et des sacrificateurs. Et après, il y a eu cette action de prière avec les bannières. On a parlé de vêtements. Thierry a parlé de vêtements. Là, il se trouve que juste avant le culte, ils ne savaient pas ce matin, mais ils allaient être embauchés. Quatre jeunes ont été embauchés comme acteurs, ils ne le savaient pas, et maintenant ils le sont. Alors je vais leur demander de s'approcher, et attention, vous allez être actifs parce que vous devrez dire après leur intervention qui est juste mimée, dans quel livre de la Bible ça se trouve, dans quel chapitre, et quels sont les personnages. Alors, sont exclus des réponses tous les conseillers, tous les intercesseurs, et je rajouterai Thierry et Claire, parce qu'ils sont trop doués, ils vont tout de suite donner la réponse, ça ne va pas aller. Les autres, par contre, vous pouvez répondre. C'est bon ? Dans un premier temps, si vraiment, vraiment tout le monde sèche, on appellera les conseillers, etc., etc., pour que l'honneur de l'Église soit sauf. Voilà, donc, écoutez bien, ou plutôt regardez bien, nos quatre personnages arrivent. Ah oui, il faudrait, si on pouvait, quelqu'un mettre la croix vraiment devant, là. Voilà, parce qu'un des personnages va aller près de la croix. Oui, par exemple, là. Hein, Denis, tu peux mettre là. Oui. Alors, là. Hop. Voilà. Donc, oui. Voilà. Donc, nos quatre personnages vont se placer. Vous pouvez venir. Voilà, voilà. Et un quatrième arrive. Alors, je vais demander à Esther, elle est là, Esther, de mettre sur notre personnage l'habit blanc. Et puis dessus, je vais demander à Véronique, de... voilà. Voilà, au-dessus, voilà. Ah, il a le sourire maintenant, hein. Ça va mieux. Ça va nettement mieux. Voilà, voilà. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Alors, attendez, vous restez là, parce que maintenant, il faut que le public travaille un peu, là. Alors, livre, chapitre, personnage. Qui veut prendre la parole, à part ceux à qui j'ai interdit de parler? Et non, piège, c'était un piège, c'est pas du tout Joseph. Et non, je savais bien qu'il y en a qui est tombé dans le panneau. Ah non, non, parce que normalement il est par terre complètement blessé, donc c'était pas le cas du tout. Non, non, c'est pas ça. Non, 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 non. Qui c'est qui a dit ça? Waouh, bravo, c'est ça, exactement. En plus, le chapitre, hein. Alors là, bravo. Alors maintenant, Zacharie 3, ça va? Les autres, c'est bon, ça revient? Alors, on continue. Le nom du personnage joué par Élie. Mais désolé, c'est pas Élie. Hein. Il s'appelle Élie, notre jeune élève, mais c'est pas Élie. Donc, c'est qui? Comment? Quel rôle faisait-il? Zacharie 3, le personnage couvert de vêtements vraiment sales, c'est... Ah, quand même, j'allais dire Josué, c'est le nom de notre église. Josué, notre église, là, Josué. Après, le personnage joué par Nathan, c'est qui? Bon, le pauvre, il n'a pas eu le beau rôle, hein. C'est qui? Thierry, tu dis rien. Personne ? Celui qui pointait du doigt, là, qui... Comment ? Ah bah oui, si vous trichez en lisant la Bible, ça va pas. Celui qui pointe du doigt, là, qui dit « Oh, oh, ça va pas, c'est bourré de tâches, c'est quoi ça ?» Oui ? Non, 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 mais t'as pas le droit à la parole. C'est qui ? C'est ? Oui, voilà, Véronique, très bien. Ouais, c'est l'adversaire Satan. Alors, maintenant, le personnage joué par Yannick. Alors, je présente Yannick, hein, c'est un jeune alémanique qui vient à l'école Daniel, enfin au lycée Daniel, dans ma classe de seconde, et qui loge chez les José. Voilà, voilà. Et très courageusement, il a pris le rôle. Enfin, c'est un très beau rôle quand même. Hein. Yannick, il joue quel rôle ? Celui qui réprime, qui renvoie l'accusateur. C'est qui ? En plus, Yannick, dans son nom, il y a le personnage qui joue. Alors, c'est facile, hein. Yannick, c'est Jean, c'est Johan, c'est... Donc, c'est qui ? Alors, l'ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel, on sait que c'est... L'ange de l'Éternel, c'est pas un ange, c'est Jésus. Il joue Jésus. Et Nathanaël, quel rôle il joue ? Celui qui a quand même, sur l'ordre de Jésus, il a enlevé les vêtements sales. C'est qui ? Alors là, je reconnais que c'est dur, là. Et là, il faut quand même, il faut peut-être quand même Zacharie 3 pour savoir... Alors, Nathanaël, il joue quel rôle ? Il y en a plusieurs, normalement. Hein, c'est plusieurs. C'est pas... En fait, il était. On pourrait rajouter ceux qui ont mis les autres vêtements, c'est-à-dire Esther, Véronique. Alors, c'est qui ? Vous remarquez qu'ils étaient juste à côté de Jésus. Hein ? Ils se tenaient à côté de Jésus. Donc, c'est... Alors, ceux qui trichent, qui ont la Bible, là, c'est quoi ? C'est qui ? Oui ? Voilà. Ceux qui se tenaient dans la présence de Dieu. Ceux qui étaient proches de Dieu. En tout cas, ils étaient à côté, là. Voilà. Donc, vous avez tous nos personnages. Merci infiniment. Et on peut les applaudir parce que... Voilà. Alors, vous avez remarqué qu'il s'agit aussi d'une histoire de vêtements, même si ce n'est pas Joseph. C'est aussi une histoire de vêtements, et aussi de vêtements sales, et aussi de changement de vêtements. Alors, c'est impressionnant parce que Thierry, quand il a donné la parole, il ne savait pas du tout de quoi j'allais parler. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très fort. Et je crois même qu'il y a une actualité du Saint-Esprit par rapport à ça, pour que le Seigneur ait pris la peine d'enfoncer le clou. Alors, Zacharie 3. Alors, avant Zacharie 3, vous allez voir que c'est très, très, très actuel. Et puis, il y a le contexte de Zacharie 3 qui est fait pour nous. Hein. Zacharie 3, le contexte, ce Josué-là, qui est assez peu connu quand même, parce que tout le monde connaît Josué, le grand conquérant de la terre promise, celui-là, il est beaucoup moins connu. Et pourtant, nous, Josué, on devrait vraiment, vraiment, vraiment le connaître, parce que nous sommes en 2017, séminaire Mathurin Cordier, qui va parler de quel thème ? La réforme, 1517-2017. On est dans une année de commémoration, et même pas seulement de commémoration, mais on a la thématique de séminaire Mathurin Cordier. Je fais un coup de pub, hein, parce qu'on n'a pas dit aux annonces. Coup de pub, dans 15 jours, Mathurin Cordier, venez tous. Enfin, c'est payant, mais quand même, vous arrangez avec Manu pour les prix. C'est la réforme continue. On est en pleine réforme. Alors maintenant, du temps d'Israël, il y a eu aussi un temps de réforme, comme nous. Il y a eu un temps de réforme, et c'était à quelle époque, d'ailleurs, ce temps de réforme ? Réforme, ça veut dire qu'il y a eu une première forme, et puis qu'après, il y a dû avoir une deuxième forme. Ça veut dire ça, réforme. Il y a une deuxième forme. Il y a eu quelque chose avant, c'est le premier temple de Salomon, qui a été brûlé, incendié, détruit par les Babyloniens. Et puis, il y a eu la déportation de tout le peuple ailleurs, à Babylone. Et puis, il y a eu un temps de restauration, de retour. Il y a eu un temps de retour. Et il y a eu un temps où les Juifs... avec l'autorisation bienveillante de Cyrus, ont voulu reconstruire ce deuxième temple. Comme nous. Nous, on veut reconstruire une église solide, on veut reconstruire la société, on est exactement pareil. Et ce qui est très, très impressionnant, c'est que dans Zacharie 2, si on peut le prendre, Zacharie 2, juste à la fin, alors là, vous allez voir, c'est très, très... Oups, c'est très actuel. Zacharie 2, vous avez vu tout à ce moment, Zacharie 2 à partir du verset, Zacharie 2, hein, à partir du verset 16. Ça, c'est une parole pour 2017, maintenant, là, avec tout ce qui se passe pour Jérusalem. Zacharie 2, voilà. À partir du verset 16, tu peux dire, verset 16. Zacharie 2, 16. Vous verrez comme c'est actuel. Comment ça, il n'y a pas de 16 ? Il n'y a pas de 16. Zacharie 2, verset 16. Si. Bon, je vais le lire. Je me pose des questions sur la Bible qui est là-dedans. L'Éternel possédera Juda comme sa part d'héritage dans la terre sainte. Il fera encore porter son choix sur Jérusalem. Actualité 2017. Ah oui, d'accord. Il fera encore porter son choix sur Jérusalem. Vous trouvez pas que c'est actuel, ça ? Que toute chair, toute nation, toute chair fasse silence devant l'Éternel. Il s'est éveillé de sa demeure sainte. Vous trouvez pas que c'est, ça, c'est l'actualité 2017 aussi. Et c'est l'actualité de Zacharie 2, juste avant Zacharie 3. Donc on est vraiment dans une actualité, un temps de reconstruction. Et dans les reconstructeurs, dans les bâtisseurs, il y avait Josué. Alors Josué, c'est un sacrificateur. Onction de sacrificature, offrir des sacrifices à Dieu. C'est-à-dire, pour nous, c'est l'adoration, la louange, c'est aussi l'intercession. Sacrificature. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et puis, il y a un autre personnage, nom très bizarre, Zorobabel, qui, lui, fait fonction de gouverneur. C'est l'onction de gouvernement. Nous, on a les deux. Onction de gouvernement et onction de sacrificature. Là, c'était deux personnages différents. Très curieusement, vous voyez, Zorobabel, c'est un drôle de nom, ça. Zorobabel, ça veut dire, c'est assez impressionnant ce nom, fils de Babylone. Fils de Babel. Enfin, ça veut dire qu'il est né à Babylone, il a été exilé à Babylone, il devait être, je ne sais pas, au niveau de la pensée, ce qu'il devait avoir, peut-être un peu babylonien dans la pensée, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était pollué par Babylone. Et il est devenu quand même gouverneur, après que certainement un temps de renouvellement de pensée, gouverneur de Juda. Et puis, ils ont donc, j'explique brillamment ce qui se passe, c'est Esdras et Néhémie qui le raconte. Ils ont reconstruit le temple, après Néhémie a reconstruit les murailles, avec une opposition énorme. Et ça nous parle parce que nous, actuellement, je ne sais pas, tous ceux qui veulent rebâtir, ils se heurtent à des oppositions, intimidations, attaques en tout genre. Et en plus, en ce moment, je trouve que ça va de plus en plus fort, les intimidations, les attaques. Tous ceux qui veulent bâtir sont d'office confrontés à énormément d'intimidations, d'accusations, de difficultés de toutes sortes. Mais les autres, du temps de Néhémie Ezra, c'était la même chose, vraiment la même chose. Et heureusement, pour eux, il y avait l'onction prophétique, très 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 efficace, Agé et Zacharie, deux prophètes, rien que pour ça, qui les ont sans arrêt, encouragés, exhortés, relevés, alors que c'était vraiment dur. Et je rappelle que Pierre-Daniel Martin, 2016, il a dit que pour 2017, les passages vraiment actuels, c'était Joël 2, Agé 2, Zacharie 2. Donc on est vraiment dans l'actualité prophétique du Seigneur. Hein. Et puis, il y a ce Zacharie 3, donc Josué, souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et Satan, debout à sa droite pour l'accuser. Alors, en préparant le message, je me suis dit, enfin, j'étais obligée de parler de quelqu'un dont j'aime pas du tout parler, c'est-à-dire Satan. Franchement, c'est pas drôle de parler de lui, franchement. Mais je suis obligée de vous le dire parce que, si on le connaît pas, c'est encore pire. Donc, Satan, ça veut dire, en fait, en hébreu, adversaire, accusateur. Il y a un mot latin, c'est Lucifer, donc le porteur de lumière, les bonnes lumières au début, puis après les tombées, c'était les fausses lumières. On est très doué en France pour les fausses lumières, hein. Fausse lumière, ça vous dit quelque chose, siècle des lumières, les fausses, bien sûr. Et puis, vous avez un troisième nom, diabolos. Ah oui, diabolos, diable. Diabolos, alors là, c'est du grec, utilisé dans le Nouveau Testament. C'est très, très intéressant aussi. Di, le préfixe di, séparation. Bolos, pensez au disco ball, c'est ce qu'on lance. Donc, c'était très lancé pour séparer. Donc, on a personnage Satan avec ses différentes facettes, fausse lumière, donc séduction. Après, on a l'accusateur, Satan, l'accusateur, l'adversaire. Emmanuel, Dieu est avec nous. Satan, il est contre nous. Même ses serviteurs, il est très contre. Voilà. Et puis, Diabolos, Jésus réconcilie. Diabolos, il divise. Et il lance des traits pour diviser. Et on va regarder ce qui se passe dans la première action, parce que c'est très, très, très subtil. C'est Genèse 2, Genèse 3. En fait, la première personne que Satan accuse, c'est pas nous, hein, c'est Dieu. La première personne qu'il accuse, et sa stratégie principale, alors là, il est très doué pour ça, on va voir ça dans Genèse 2, dans Genèse 3, le serpent, il dit, vous connaissez par cœur ce passage, hein, Dieu a-t-il réellement dit, donc ça veut dire mise en doute de la parole, ça tout le monde sait, mise en doute, de la parole de Dieu. Mais c'est après que c'est, il y a autre chose intéressant. Le serpent, verset 4, il dit, vous ne mourrez pas du tout, énorme mensonge. En fait, il joue, c'est un fin linguiste, hein, notre serpent, il joue sur la polysémie, le double sens du mot mourir. Il y a la mort naturelle, il y a la mort physique, la mort spirituelle. Donc il joue sur les deux sens. Ça, c'est un maître de l'art du langage. Intelligence linguistique verbale extrêmement développée, affûtée. Et quand ce n'est pas mis au service de la bonne cause, c'est dévastateur. On a eu plein d'hommes de lettres en France qui sont très doués, mais pas pour la bonne cause, et c'est terrible. Je pense à... Enfin, bon, je ne donne pas les noms, mais il y en a plein. Non, sinon, j'allais régler des comptes à certains, mais ça, non, ça ne se fait pas. Ensuite, verset 5. Ça, c'est intéressant. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et là, vous avez une insinuation extrêmement perfide, un sous-entendu, un implicite. En français, on fait ça, on dégage. Dégager l'implicite. Alors là, l'implicite, il est énorme et dévastateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce que Satan est en train de dire, d'insinuer, c'est que Dieu ne veut pas qu'on soit comme lui. Il veut jalousement garder ses prérogatives de Dieu. Que Dieu, selon Satan, considère comme une proie arrachée de rester le seul Dieu. Et nous, surtout pas. Nous, en dessous. Donc en fait, Satan, dans sa logique, c'est dominant, dominé. Les castes. Il y a un pays, il ne fonctionne que par castes, l'Inde. Hein. Ça, c'est le royaume des démons, il paraît d'ailleurs, c'est pour ceux qui en ont visité un peu, pas très attractif, mais ceux qui ont visité, il paraît que c'est que des castes étroitement fermées, comme l'Inde. Hein. Le système des castes. Donc la caste Dieu, la caste pas Dieu, et rien entre les deux. Et ça, si vous voulez, c'est en fait c'est ce qui est fort chez Satan, c'est qu'il projette sur Dieu sa propre nature, hein, psychologiquement c'est classique, on projette sur les autres ce qui est au fond de soi, et on séduit et on ment. Et il a fait ça tout au long des siècles, c'est-à-dire faire croire que Dieu avait son caractère à lui, Satan. Et en France, on a été très doués pour croire ça, avec le fameux dieu jupitérien dont je vous ai déjà parlé, hein, le dieu lointain, distant, qui exige, qui impose. On a eu des terribles mouvements, le mouvement du jansénisme aussi, où tout le monde n'est pas sauvé, enfin des tas de choses bizarroïdes en France. Et culturellement, dans notre inconscient collectif, eh ben, on a beaucoup de gamelles qu'on traîne, c'est-à-dire des fausses représentations des dieux, des fausses images de Dieu. Et un des pires siècles, à mon avis, ça a été le 18e, bien sûr, mais le 17e, hein, c'était abominable. C'était une fausse... Enfin, les vrais chrétiens étaient tous partis en exil ou dans les galères, etc. Et on a eu cette fausse image de Dieu qui est venue fortement et qui a dégoûté plein de gens de Dieu et de la religion, ça c'est sûr. Donc il est très fort, sa réussite, c'est quand il fait croire que Dieu est lui, quelque part. Hein, le Dieu qui exige, qui etc. etc. Donc... le fondement de sa nature, c'est l'accusation. Et là, le peuple de Dieu, on reçoit sans arrêt des traits d'accusation. Rappelez-vous Apocalypse, hein, l'accusateur, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit, les accusateurs des frères. Donc l'accusateur, c'est quelque chose de très, très actuel. On est accusé dans nos pensées, condamné dans nos pensées. Et en plus... Parfois, on pactise avec ceux qui accusent. On fait ami-ami avec ceux qui accusent les autres. On a les réflexes d'accusation. Et je crois que là, le Seigneur nous amène à un point où il dit qu'il n'y a plus rien, il n'y a rien en moi, l'accusateur n'a strictement rien en moi, qui n'est rien en vous non plus. Et là, je crois qu'il y a vraiment une interpellation de Saint-Esprit, qu'on n'ait rien à voir avec l'accusateur, qu'on le discerne quand il vient nous attaquer dans nos pensées, contre nous, contre les autres, et qu'on le rejette. Qui n'est rien en nous, comme il n'a rien en Jésus. Ça, c'est important. Alors maintenant, par rapport à donc, cet accusateur de Zacharie 3, donc il vient, il accuse, est-ce qu'il accuse sur des choses vraies? Est-ce qu'il avait plein de tâches, l'habit de notre ami Josué? Bah, évidemment que c'était bourré de tâches. Alors j'ai fait exprès, j'ai pris un habit blanc, c'est-à-dire fausse justice, vous savez, blanc, normalement c'est la justice de Christ, là c'était la propre justice, c'était bourré de tâches. Et puis l'habit jaune dessus, ça parlait de lumière, mais bon, les lumières, c'était pas ça du tout. Ça parle de manque de révélation, quoi. Tout est tordu, tout est... Et puis, alors comment fait... Alors l'ennemi, quand il voit ça, alors il est fort parce que c'est quand même lui qui a amené certainement Josué à se tacher comme ça, et après il accuse, il est très fort, hein. Il amène au péché, et après il nous accuse qu'on a péché. Vous avez remarqué? Il fait souvent ça. Mais alors, quelle est la réaction de Jésus? Et c'est ça qui est fort. Alors Jésus, d'abord, il s'occupe personnellement de Satan. Et en fait, Josué, il a eu confin, quelque part, il a laissé faire Jésus. Jésus a, voilà, l'Éternel combattra pour vous. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans Zacharie 3, l'Éternel qui est mentionné, c'est l'Éternel des armées, celui qui combat. Donc, il combat pour Josué, il combat pour nous. Et nous, on reste dans le repos, on reste tranquille, il combat pour nous. Et puis, ben quand même, il faut s'occuper de ses habits, on ne va pas le laisser dans cette crasse, quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va demander à ses proches, ceux qui se tiennent dans sa présence, ceux qui l'entendent, ceux qui l'écoutent, ceux qui comprennent ses voix, de s'occuper d'enlever les habits sales. Et là, ça nous parle, alors je donne un exemple, après je prendrai d'autres exemples dans la Bible, un exemple tout frais, dimanche dernier, Guillaume, je ne sais pas vous, tous ceux qui étaient là, d'abord c'est un message à écouter absolument, et en écoutant Guillaume, on a pris conscience, hein, beaucoup, hein, normalement on a tous pris conscience, que les vêtements sales, on en avait, et il a parlé d'un filtre absolument déformant sur nos pensées, notre manière de lire la Bible, par rapport au postmodernisme et la façon dont on comprend Romains 8-28, toutes choses concourent au bien, et on a compris que nous, le bien, c'était notre petit confort personnel, et ce n'était pas ça du tout, on avait tout tordu. Ça parle clairement de pensées polluées par notre culture ambiante. Alors, je pose la question, est-ce que quelqu'un s'est senti accusé par ce que Guillaume a apporté par rapport à notre filtre postmoderne? Est-ce que quelqu'un parmi vous s'est senti accusé? Personne, hein? Non, je te rassure, Guillaume, on ne s'est pas senti accusé. Enfin, moi, je me sens... Non, personne ne s'est senti accusé. Il a dit avec tellement de grâce et de bonté et tout ça, on n'est pas... Non, on ne s'est pas senti accusé. Mais on s'est quand même senti repris, on a dit, ah ben oui, là, on n'est pas au point. Et on a décidé, enfin, je ne sais pas, vous, enfin, nous, on a décidé quand même qu'on allait lâcher cette fausse compréhension de Romains 8-28, non? Hein? Et en fait, Jésus fonctionne exactement comme ça. On a quelque chose de sale, là, ça parle des pensées. Eh bien, le Seigneur s'en occupe, il nous envoie un ministère, quelqu'un qui a compris les choses dans la présence de Dieu. Ben, Guillaume, là, c'était Guillaume, il avait compris quelque chose d'important. Il nous le redonne avec grâce, avec amour, et il nous enlève ce mauvais vêtement, ce mauvais voile qui obscurcissait notre pensée. C'est comme ça que Jésus fonctionne. Alors, par rapport à l'accusation, je crois que c'est important qu'on comprenne qu'il n'y a rien d'accusateur en Dieu. Alors, je prends plusieurs exemples. La femme pécheresse, adultère, elle avait péché, c'est sûr, elle avait péché, oui. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi le gars n'était pas avec elle. Bon, petite question, ouais. Bon, bref, enfin, en tout cas, elle avait péché. Est-ce que Jésus l'a accusé? Non. Est-ce que Jésus a traité son péché? Ben oui. C'est-à-dire qu'il a dit, personne ne t'a accusé, je ne te condamne pas non plus, il faut que ça rentre en nous ça, je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. Il n'a pas accusé, mais il a traité son péché. Alors un autre exemple, alors là, c'était là quelqu'un qui n'a pas péché du tout, mais qui est quand même accusé. C'est Marie, vous savez, celle qui a cassé le vase d'albâtre pour oindre Jésus, et les disciples qui ont dit, c'est du n'importe quoi, c'est du gros gâchis, c'est une gabegie totale, on aurait pu aider les pauvres, on aurait pu faire plein de choses avec ces sous. Accusation. Pauvre Marie, s'en est pris plein la figure. Son attention pure d'adoratrice était complètement tordue par les disciples, en plus des proches, des amis, des intimes, les disciples eux-mêmes. Est-ce qu'elle s'est défendue elle-même? Ben non, elle a fait comme Josué dans la scénette. C'est Jésus qui s'est levé pour prendre sa défense. Et avec quel honneur il a pris sa défense. Culture de l'honneur à fond, Jésus, là. Il a dit ce qu'elle a fait, ce sera raconté dans le monde entier. Enfin, il a honoré publiquement. Il a pris sa défense, il a honoré. C'est magnifique. Et alors, il y a une histoire dans la Bible aussi. Alors là, quelqu'un qui a vraiment très, très, très gravement péché. Et c'est une histoire, ça, on a besoin de voir comment Jésus fonctionne, pour que d'abord qu'on le reçoive pour nous-mêmes, et puis aussi qu'on fasse pareil pour les autres, au lieu d'accuser. Alors, vous savez bien, c'est ce fameux Pierre. Bon, il était d'accord, il était dans ses propres forces, il avait vraiment besoin d'un bon décrassage de propres forces. Et donc, le reniement, bon, il était certainement soumis à des pressions spirituelles et démoniaques énormes. Renié 3 fois, ok. Et puis après, ça, c'est pas dit dans la parole, mais c'est évident qu'il s'est pris une salve de flèches d'accusation terribles de l'ennemi. Il a pleuré amèrement, ça on le sait. Il y a dû avoir, on ne peut pas imaginer, je pense, l'accusation qui est tombée sur lui. Lui, l'ami proche, il y a dû avoir une accusation énorme, énorme, énorme. Et il y en a un autre, hein, qui a vécu l'accusation, mais lui, il est allé se pendre. Donc, il y a une accusation, il a été soumis à cette salve, Jésus a dit, il avait dit avant, je prie pour que ta foi ne faillisse point, tu vas être criblé comme le froment, mais je prie. Donc Jésus a intercédé pour qu'il tienne bon dans la foi, dans la grâce de Jésus. Et après, ce qui est fort, c'est voir comment Jésus l'a relevé. Alors, il y a en fait quelque chose qui est très, très peu connu dans la parole. Tout le monde connaît les trois fois même tu. Hein. Seulement, ce qui n'est pas connu du tout, c'est qu'en fait, il y a eu un tête-à-tête avant. Et vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 15, verset 5, je crois. Il est apparu à Pierre, dit Paul très, très brièvement. Il est apparu à Pierre. Alors, on pense que c'est après les apparitions de Jésus aux femmes. Il est apparu d'abord aux femmes, d'après Map Thompson, et après, il y a eu un tête-à-tête avec Pierre. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé dans ce tête-à-tête ? Non. Et là, on voit vraiment la délicatesse de Jésus. Personne ne sait. Le Saint-Esprit l'a révélé à personne. C'est entre eux. C'est un cœur à cœur de restauration, de pardon, entre eux. Il s'est occupé personnellement de son apôtre. Et après, il y a une autre phase avec tous les autres, là, au lac de Galilée. Mais voyez, comment fait Jésus, c'est énorme, quoi. C'est honorer la personne, c'est ne pas l'accuser, c'est prendre soin de lui. Et il envoie, et là, et il le fait pas. En plus, il le fait pas lui-même. Il embauche son peuple. Là, c'était Nathanaël, José, qui faisait le rôle de celui qui se tenait dans la présence de Dieu, qui comprenait le cœur de Dieu. Et ça nous parle des adorateurs, de ceux qui se tiennent dans l'intimité, de ceux qui se tiennent dans la prière, dans l'adoration, qui comprennent les voies de Dieu et qui peuvent exercer un ministère de restauration, de puissance aussi pour enlever les vêtements sales. Et voilà. Donc on a un grand appel à nous laisser déjà dépouiller de ces vieux vêtements et aussi à apporter cette grâce à tous ceux qui ont des vêtements souillés. Et le cœur du Père, alors après on va voir un petit peu ses vêtements quand même de plus près. Donc ça c'est la manière de faire de Jésus et c'est extraordinaire, c'est l'honneur, c'est la délicatesse, c'est le respect, c'est l'opposé de l'accusateur. C'est vraiment l'opposé. Et donc Dieu, il s'occupe de son propre peuple comme ça et il cherche des enfants à lui de son peuple qui vont pratiquer la même chose envers les frères et sœurs. Ça, c'est l'amour fraternel, celui qui lave les pieds, qui dit pas, oh là là, dis donc, ils sont sales tes pieds, mais qui les lave avec amour, c'est tout ça, quoi. Alors, on va regarder on peut revenir à Zacharie 3. Et vous remarquez qu'il y a les vêtements sales. Alors, voilà, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Donc, ça veut dire que c'est la grâce pure. Hein. Oui, normalement, on serait tous passibles du feu. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre la croix, parce que tout ce passage de Zacharie 3, derrière, il y a la croix, c'est évident. Josué était couvert de vêtements sales, pourtant souverain sacrificateur, c'est pas rien, c'est énorme. La plus grande fonction spirituelle dans le peuple d'Israël, c'était ça. Alors on continue, voilà. Et vous remarquez, donc l'ange dit, donc Jésus dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Jésus ne l'a pas fait directement, hein, c'est par les ministères, par son corps qu'il l'a fait. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais. Pas de beaux habits, enfin d'habits propres, c'est beaucoup plus que ça, d'habits de fête. Ça, c'est impressionnant, parce que c'est pas seulement la robe blanche de justice, voyez, c'est beaucoup plus que ça, c'est des habits de fête. Et là, ça fait référence à Luc 15. Luc 15, c'était pas seulement enlever les habits souillés par les pourceaux, c'était un très très bel habit, et après, il y a eu la fête. Les réjouissances, le veau gras, etc. Donc on retrouve cette notion de fête, de joie. En fait, il y a énormément de joie. Alors c'est fort quand même. Il était maculé de tâches. Il avait certainement traîné on ne sait pas où. Alors bon, les vêtements sales, au hasard, comme ça. Je vais dire un peu ce que ça peut être. La propre justice, l'orgueil, les propres forces, l'impureté sexuelle, l'état de pensée bizarroïde, humanisme, rationalisme, dualisme, enfin tous les ismes que Luc combat violemment dans ses séminaires. Ben, tout ça. Plus l'incrédulité, bien sûr, l'incrédulité très forte. Tout ça. Et vous vous rendez compte, il lui enlève ça. Pas de reproche, c'est la fête. C'est renversant quand même. C'est la grâce d'un lieu à la fête et à la joie. La grâce, elle va avec la joie. En grec, charis, kara, c'est le même radical. La joie et la grâce, c'est la même chose. Même radical, en tout cas. C'est très, très proche. Et après, la seule pièce du vêtement qu'on détaille bien, et ça, c'est pour nous, les Français, c'est le turban, c'est-à-dire la tiare, enfin, ce qui touche la tête. La tête, alors là, il s'occupe spécialement de la tête, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ça fait référence aussi dans Ésaïe, il parle de couronnera leur tête d'allégresse. Donc la tête, c'est les pensées qui doivent être renouvelées. Un turban, il y a plusieurs tours, j'imagine. Donc, pensées renouvelées. Et puis, ça parle de la joie, des vêtements de joie. Ça, c'est impressionnant, des vêtements de joie. Et puis après, on continue. Voilà. Si tu marches dans mes voies, donc ça, c'est la grâce totale. Hein, il a tout fait, enfin, avec ses disciples, hein, il a tout fait pour enlever ses vêtements sales. Josué, il s'est laissé faire. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc, autorité spirituelle. Il reçoit l'autorité spirituelle. Libre accès parmi ceux qui sont ici, ça veut dire qu'il est appelé aussi à marcher dans la présence de Dieu. Et là, d'ailleurs, il y a un extraordinaire message sur la présence de Dieu que Manuela doit tous nous envoyer, là. Hein, la présence de Dieu, marcher dans la présence de Dieu. C'est un appel fort, ça. Ma face marchera moi-même avec toi, dit Moïse dans Exode, là. C'est Jésus, Dieu qui dit ça à Moïse. Ma face, ma présence marchera avec toi et te donnera du repos. Donc, il y a un appel fort à rentrer, libre accès parmi ceux qui sont ici, dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Appel à l'intimité, appel à la présence de Dieu. Parce que là, il y a le repos et il y a la joie. Donc, il ne faut pas se priver. Hein. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur. Toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, ce sont des hommes qui serviront de signes. Et on est appelé à être un signe pour le monde, un signe pour les nations, d'un peuple qui marche dans la liberté, dans la grâce, dans la joie, se pardonnant les uns les autres, marchant dans la grâce les uns pour les autres, sans aucune prise donnée à l'accusateur. Je fais venir mon serviteur le germe. On peut continuer. Voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. La pierre, ça parle de la construction. Construction du temple, construction de la restauration du temple. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit être gravé. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Ouf. En ce jour-là, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. La joie, la paix, le shalom, au sens fort du terme, le shalom, la communion fraternelle, vous vous inviterez les uns les autres, une communion dans la liberté, dans la prospérité, dans l'abondance spirituelle, et c'est extraordinaire. Et en parallèle, il y a Apocalypse 12 qui dit comment on peut vaincre, comment on vainc l'accusateur, parce que dans ce chapitre, c'est ça, l'ennemi, c'est l'accusateur. Comment on le vainc ? Apocalypse 12, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ça veut dire la confiance absolue dans la toute suffisance du sang de l'agneau. Ça veut dire que quand vous avez des péchés d'un côté, le sang de l'agneau de l'autre, vous décidez de croire à la toute puissance du sang de l'agneau. Et ça, eh ben, il faut rejeter l'incrédulité. Par exemple, tous les péchés de la France, ils sont énormes. Vous êtes d'accord, hein, il y a plein, plein, plein de péchés, hein, de la France, du monde politique, de tout, quoi. Et puis, et le Seigneur dit, est-ce que tu crois que mon sang est suffisant pour couvrir tout ça ? Et vous dites, qu'est-ce que vous dites ? Ben, vous dites, amen, voilà, on le croit. Dieu cherche un peuple qui croit à la toute suffisance de son sang. Et il y a un peuple, quand même, les voisins, ils y ont cru. Hein. Et les voisins, quand même, les Allemands, ils avaient la Shoah, quand même, c'était énorme comme culpabilité, la Shoah. Énorme ! Ils ont cru à la toute puissance du sang de Jésus, et maintenant, c'est une nation extraordinaire, quoi. Et une église qui va de l'avant, qui bénit Israël. Je crois qu'ils sont parmi les meilleurs amis d'Israël. Si ce n'est pas de la rédemption et de la foi dans la toute puissance du sang. Donc nous, on est boostés par nos voisins allemands, là. Et nous, Alsace, c'est à nous de suivre derrière, quoi, avant la France de l'intérieur. Donc la toute puissance du sang de Jésus, c'est là où le péché abonde, la grâce surabonde. Voilà. Il faut qu'on soit vraiment ferme là-dessus et ne pas nous laisser effrayer parce que l'accusateur est très 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 fort pour dire t'as vu ce qu'a fait le pays, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'ils ont fait pour Jérusalem, t'as vu ce qu'ils ont fait, l'accusateur. Et nous, le peuple de Dieu, on se tient comme sacrificateur avec des beaux vêtements de fête et on dit le sang de Jésus, il est plus que suffisant, même pour tout ça. Le sang de Jésus, on l'a vaincu par la parole de notre témoignage, alignement avec la parole, turban royal et pas pensée tordue. Donc, alignement total avec la parole. Vous savez, on a fait un geste prophétique très fort, là, à Paris. Je le refais parce que c'est fort. La parole, elle domine mes pensées. On a fait tout ça à Paris. C'était très, très fort. Tu te rappelles, Manu ? Voilà. C'est la parole au-dessus de mes pensées et pas moi au-dessus de la parole. Là. Vous êtes d'accord ? Alors, peut-être faites-le tous, comme ça, on est bon. Allez, la parole, je m'aligne avec la parole. La parole domine mes pensées. Je rejette mes pensées humaines tordues de français moyen. Et je m'aligne avec la parole de Dieu. Ouais, voilà, la parole me couvre. Voilà, je m'aligne, je décide de m'aligner, et c'est pas mes petits sentiments persos qui vont me dire ce que je dois penser, mais c'est la parole de Dieu. Voilà. Et la troisième chose, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, ce verset, on a souvent donné une pensée un peu réductrice. Bah oui, c'est pour les martyrs, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, bien sûr, c'est pour eux. Et puis, du coup, ça ne nous concerne pas parce que c'est les martyrs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas encore en pays persécuté, ça va. Mais en fait, c'est aussi, ils n'ont pas aimé leur... En grec, c'est psyché. C'est leur vie psychique, quoi. Leur pensée à eux, leur sentiment à eux. Ils n'ont pas aimé vouloir garder leur pensée à eux jusqu'à craindre la mort, c'est-à-dire on doit passer par une mort à nos pensées tordues à nous. Pour renoncer à nos pensées tordues, par exemple, avec le message de Guillaume, on renonce à nos pensées tordues sur ce que c'est que le bien pour nous, et on décide de s'aligner. Et comme a dit Guillaume, Dieu est très bon, même quand il a vécu des choses terribles, terribles, Dieu est très bon. On s'aligne sur la parole de Dieu, point. Même si notre âme nous dit parfois l'inverse, on décide. On a vaincu, et comme ça, on vainc l'accusateur. Le sang de l'agneau, parole du témoignage, et pas craindre notre âme psychique jusqu'à craindre la mort. Et c'est un peuple qui vainc l'accusateur comme ça. Alors après, on continue, parce qu'après, on est dans une phase très intéressante de construction. Voilà. Donc oui, il y a une terrible guerre, ça c'est sûr. L'accusateur, il n'est pas content du tout. Mais il y a un peuple qui se lève, qui n'a rien à faire avec l'accusateur et qui vit dans la grâce et dans la liberté. Et puis après, je continue avec Zacharie, cette fois-ci. Voilà, Zacharie 4. Ah, alors Zacharie 4, j'ai encore un peu de temps, ça va ? Zacharie 4. Zacharie 4, c'est extraordinaire. Ça, l'ange qui parlait avec moi revint. Donc on a eu le préambule de Zacharie 3, hein, avec le bon décrassage de Josué, avec les habits de fête, et la suite, c'est ça. Il me réveille comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Ça parle d'un réveil. Il y a des petites prémices de réveil, des petites choses de réveil qui... Voilà, on sent que ça vient dans le pays, des petits indices qui montrent que ça va éclater bientôt. Un homme que l'on réveille... Pensez aussi aux 10 vierges, hein, il y a eu un appel, on se réveille. Il y a un réveil. Que vois-tu ? Je vois une menorah, chandelier, c'est une menorah, toute d'or, surmontée d'un vase portant 7 lampes, 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. 2 oliviers. Alors la menorah, l'Apocalypse nous le dit, c'est l'Église. Alors l'Église avec un grand E, hein, messianique, nation, l'Église. Une menorah. Il y a une menorah toute d'or. Et là, ça fait bien sûr référence à la menorah qui se tenait dans le lieu saint, dans le lieu saint du temple. Et elle était d'une seule pièce d'or battue. Une seule pièce. Ça parle d'une Église unie. Et d'or battu, ça nous parle bien, parce que qui c'est qui en ce moment n'est pas sous les pressions de toutes sortes ? Non, vous n'êtes pas sous pression là ? On vit des tas de pressions, des tas de choses, mais ça nous rapproche, ça nous soude, et l'or de la foi est éprouvé au milieu de nous. Oui, l'or. La gloire de Dieu, la bonté de Dieu, la présence de Dieu, ben oui, c'est l'or aussi. Donc le Seigneur est en train de façonner sa menorah, son Église, bien comme il faut. Peut-être avec un petit peu, oui, on sent les pressions et tout, mais le résultat est extraordinaire. On a besoin de voir ce qu'il veut faire. Une menorah, donc une église en or. L'or de la foi, l'or de la gloire, de la présence de Dieu, l'or de la bonté de Dieu, l'or. Surmonté d'un vase portant 7 lampes. Alors les 7 lampes, évidemment, ça fait référence aux 7 esprits d'éternel de Ésaïe 11, hein, 7 esprits d'éternel. Et là, on a besoin d'une église qui resplendit des 7 esprits, de plénitude de l'esprit. Alors je rappelle les 7 esprits. Claire, elle sait ça par cœur. Parce que tous les Shabbats, on les dit. Hein. L'esprit de l'éternel, esprit de... Alors, vous avez sagesse et intelligence. Après, vous avez conseil et force. Après, vous avez crainte et connaissance de l'éternel. Alors, chacun d'eux pourrait donner à Dieu un développement énorme. Hein. En ce moment, par exemple, j'aime beaucoup l'esprit de conseil, par exemple. C'est la capacité donnée par Dieu à faire des plans, à être stratégique. Si ce n'est pas utile, si ce n'est pas extraordinairement important. Rien que ça, l'esprit de conseil. À chaque fois, dans une situation, Seigneur, donne ton esprit de conseil. C'est quoi la stratégie ? C'est quoi le plan pour vaincre telle ou telle difficulté ? Pour telle ou telle classe qui nous pose problème ? Pour tel ou tel élève ? C'est quoi ta stratégie ? Esprit de révélation, esprit de conseil. Bon, esprit de force. Et chacun d'eux est comme ça. Alors, une église remplie de ces 7 esprits, dans leur plénitude. Et alors, ce qui est très fort, c'est qu'en fait, il y a 3 x 7. Là, on voit que 2 x 7, mais dans le texte d'origine, texte littéral, il y a 3 x 7. Et en fait, il y a 7 conduits pour chaque lampe. Ça fait 49 conduits. En fait, c'est irrigué de tous les côtés. Ça parle d'une extraordinaire irrigation de l'esprit. Et c'est relié, tout est relié, si vous voulez, tout est relié aux oliviers. Olivier, bon, on le voit à la fin du chapitre, c'est l'onction royale, l'onction sacerdotale. Il y a deux oliviers qui parlent d'une plénitude d'onction royale, sacerdotale. On est loin pour gouverner, on est loin pour être sacrificateur. Et c'est une église complètement remplie de l'esprit. Et ça veut dire aussi une église qui marche par l'esprit et qui ne marche plus par ses propres forces. Et là, je crois qu'aussi le Seigneur nous fait passer en ce moment par un temps de dépouillement de nos propres forces, un temps d'humiliation aussi. Et là, je cite Sophonie 3, « On ne s'enorgueillira plus sur ma montagne sainte, je laisserai au milieu de toi un peuple humble, petit, qui se confie dans le nom de l'Éternel. » Le Seigneur est en train de faire ça bien comme il faut. « On ne s'enorgueillira plus sur ma montagne sainte. » Un peuple humble, petit. Et après, on continue. Donc, les oliviers, donc son royal sacerdotal. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que cela, mon Seigneur ?» Verset 5, « Ne sais-tu pas ce que c'est ?»« Non, mon Seigneur. » Verset 6, « Alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, dont je rappelle ce constructeur juif, ce gouverneur. Ce n'est, vous connaissez par cœur ce verset, ni par puissance, ni par force, par mon esprit. » Alors souvent, on connaît par cœur le verset, mais il faut voir le contexte. Là, c'est une église absolument remplie de l'esprit, de cet esprit d'Éternel, dans la plénitude de l'esprit, irriguée, reliée aux oliviers, ne faisant rien par ses propres forces. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Elle sait qu'elle ne peut rien faire par ses propres forces et elle est sans arrêt irriguée et sans arrêt reliée. Et du coup, l'huile coule avec abondance et elle brille. Et elle brille énormément. Elle a renoncé à ses propres forces. Elle a été dépouillée de ses propres forces, de ses pensées humaines, de ses manières de fonctionner humaines, ni par puissance, c'est-à-dire par les moyens humains, les ressources humaines, ni par force, mais par mon esprit. Et là, il y a le travail actuel de l'esprit pour nous faire renoncer à nos propres forces. Et il y va par tous les moyens, hein, il nous fait renoncer à nos propres forces. Qui es-tu, grande montagne ? Donc ça, c'est tous les obstacles, de toutes sortes, et ceux qui sont en nous aussi. Luc parlait des murs aussi entre nous, de nous, tout ce qui nous sépare de la plénitude. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. La pierre principale, bien sûr, c'est Jésus. Ça veut dire que c'est une église qui est Jésus, chrétien, petit Christ, hein, qui reflète entièrement le caractère de Christ. Est-ce que c'est possible ? Grâce pour elle, surabondance de grâce, deux fois grâce. Grâce, ça veut dire surabondance de grâce. Pour elle, le Seigneur a décidé qu'il fera ça, il va le faire. Et peut-être que, je crois que le Seigneur nous défie, il nous dit, bon, l'état de l'Église de France, de Josué local, ou de l'Église de France tout court, est-ce que, Église de France, tu crois que le Seigneur peut faire de toi cette splendide menorah, irriguée de l'esprit, marchant par l'esprit, et non plus par ses propres forces et par ses propres pensées. Est-ce que tu crois que je peux le faire ? Il cherche un peuple qui dit, oui Seigneur, tu peux le faire. Ça paraît impossible humainement, mais il a dit, ni par puissance ni par force, je vais le faire. Et simplement, il cherche des personnes qui tiennent dans sa présence et qui disent, ok Seigneur, tu vas le faire. Et grâce pour elle. Les mains de Zorobabel, verset 9, ont fondé cette maison, ce temple. Ses mains l'achèveront. Zorobabel, rappelez-vous, c'est tous les constructeurs. Ça représente l'ensemble des constructeurs. Ses mains l'achèveront. Tu reconnaîtras que l'Éternel des armées, celui qui combat, m'a envoyé vers vous. Qui a méprisé le jour des petits commencements ? On ne méprise pas. On se réjouira en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Et puis après, donc, il explique qui sont les deux oints qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse. Donc on est dans une phase de construction, on a énormément d'obstacles devant nous, on a des grandes montagnes devant nous. Dans quel camp sommes-nous ? Sommes-nous avec l'accusateur en voyant tout ce qui ne va pas et en accusant ? Sommes-nous avec Jésus qui dit « Non, là, ma grâce est absolument suffisante, mon sang est suffisant. » Et puis, il n'y a plus qu'à se mettre d'accord avec ça et surtout recevoir le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est cette extraordinaire menorah. Qui rappelons-nous dans Ésaïe 60, hein, « Lève-toi, sois éclairé, ta gloire arrive. » Les nations sont enfoncées dans de très, très, très profondes ténèbres, et ça va c'est de plus en plus ténébreux, vous le savez, à vitesse grand V, les ténèbres s'épaississent, c'est énorme, ça va très, très vite, hein. Les ténèbres s'épaississent énormément, mais le Seigneur est en train de lever une lumière qui sera une source d'espérance. Je me rappelle cette énorme lumière laser qui sortait d'ici, hein, de ce lieu, dans les années 90, quand on arrive à Gabilia, il y avait une énorme lumière laser qui sortait d'ici, de ce bâtiment précis. Et c'était quand même un signe prophétique très fort. Une grande lumière dans les ténèbres, hein, c'était la nuit partout sur la plaine d'Alsace. Et puis il y avait cet énorme faisceau lumineux qui jaillissait de ce lieu. C'était vraiment un signe que cette, l'Église de Dieu est appelée à rayonner et à être une source d'espérance, une source de une lumière. Lumière pour les nations. Les nations accourront vers toi, vous disiez Ésaïe 60. Il y a une, on est vraiment appelé à ça et le Seigneur va le faire. Et ça vaut un petit peu quelques souffrances, n'est-ce pas? Ça vaut quelques pressions, ça vaut quelques difficultés parce qu'il fait une œuvre extraordinaire. Et il a en vue, ce qu'il a en vue, c'est le salut des nations. Une Église qui rayonne sur les nations et qui est remplie de l'Esprit. Et l'Esprit, c'est l'onction de joie, l'onction de puissance, l'onction d'amour, évidemment. Tout ça, c'est rempli d'amour. Alors, peut-être qu'on va terminer par la prière, hein. Si vous permettez. Et puis, bon, une petite chose, si parmi vous, certains se bagarrent avec l'accusateur, soit dans leur propre pensée contre eux, soit ils ont une propension à accuser les autres très facilement. Je crois vraiment que le Seigneur, il veut vraiment nous débarrasser de tout compromis, toute acceptation de l'accusation, soit contre nous, soit contre les autres, ou quoi, contre Dieu aussi, ou contre l'Église. Mais il veut vraiment qu'on soit débarrassé de tout contact, tout lien, tout emprise de l'accusateur. Parce qu'il veut une Église qui est absolument affranchie de l'accusation. On l'a vaincue. Merci Seigneur, parce que on veut recevoir de toi ce rêve. Ce n'est pas seulement ton rêve, c'est ton projet, c'est ce que tu veux faire. Une Église remplie de ta gloire, remplie de l'Esprit, marchant par l'Esprit, unie, comme Jean 17 le demande, un seul corps de l'or et des sept esprits d'éternel. Reliés aux deux oliviers, onction royale, onction sacerdotale, marchant dans l'amour et marchant dans la liberté, marchant dans la joie, et étant une puissante lumière pour éclairer la nation qui, elle, s'enfonce dans les ténèbres. Alors Seigneur, tu nous montres le grand plan. Merci pour l'onction prophétique qui encourage les bâtisseurs. Merci de fortifier tous les bâtisseurs au milieu de nous. Je pense en particulier à mes collègues de l'école Daniel, les bâtisseurs de la réforme dans l'éducation, dans la réforme en pédagogie, la réforme dans le management, tous les réformateurs que tu lèves dans ce pays. Seigneur, tu les fortifies, tu fortifies leurs mains, Seigneur, et que les prophètes, les onctions prophétiques, onctions sacerdotales, se tiennent avec eux pour fortifier leurs mains, Seigneur. Et on ne méprise pas les petits commencements. Tu as commencé, tu achèveras. Et on se met d'accord avec toi là-dessus, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.